Confiné chronique, 46e jour. Pas de muguet en ce 1er mai, ou si peu. Et surtout, pas de grande marche ni de défilé. Les manifestations se dérouleront sur les balcons, les revendications se feront virtuellement. Peut-être entendrons-nous quelques concerts de casseroles ou une bella ciao entonnée ici et là. La parole donc aux syndicats, aujourd'hui dans les confinés chroniques. Réunis en intersyndicale, vous entendrez Léo, bouquiniste et secrétaire adjoint de la section locale de la CGT, ainsi qu'Élodie, infirmière, et Daniel, postier à la retraite, tous deux représentants de la CNT, la Confédération nationale du travail. Pour eux, le 1er mai est une journée de lutte pour la défense du droit du travail. Ce n'est pas à proprement parler une fête. C'est Daniel qui ouvre le bal.
Même si le mot est entré dans le langage courant comme la fête des travailleurs et qu'aujourd'hui le 1er mai est un jour férié et chômé, le 1er mai est depuis son origine, c'est-à-dire le 1er mai 1890, le 1er mai appartient aux travailleurs, il est et doit rester à jamais un jour de combat et un jour de combat international puisque dans tous les pays du monde se déroulent des manifestations pour défendre les revendications des travailleurs. Et je crois qu'historiquement, le 1er mai a été intimement lié à la revendication des 8 heures, c'est-à-dire la journée 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. 150 ans plus tard, on est toujours à se battre pour la même chose, pour la réduction du temps de travail, puisque même si officiellement on est à 35 heures, malheureusement ce n'est plus le cas avec l'état d'urgence, se battre pour la réduction du temps de travail est une revendication de toujours du mouvement ouvrier et partout sur la planète. Le 1er mai aussi, il faut le dire, c'est le symbole de la lutte des classes suite au supplice des martyrs de Chicago qui ont fait du 1er mai ce jour important dans la lutte internationale des travailleurs. Pratiquement sans interruption, cette date est restée dans l'histoire du mouvement ouvrier pour signaler, et c'est important, que les travailleurs n'ont pas de patrie et que la solidarité internationale est quelque chose de très important. Le capitalisme est mondialisé. La réponse des travailleurs doit être de même.
Et c'est d'autant plus vrai peut-être cette année et puis en ce début du mois de mai, puisqu'on est en pleine crise sanitaire, en état d'urgence sanitaire, nous dit-on. Et vous dénoncez des mesures gouvernementales qui vont à l'encontre des droits du travail. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, ces mesures ?
Donc, l'état d'urgence, pour rappel, permet aux patrons, et sans aucune justification, sans la nécessité de se justifier d'une quelconque façon, alors, entre autres, d'imposer, de modifier la prise de congé, de déroger aux droits de repos hebdomadaire et dominical, d'allonger la durée du temps de travail jusqu'à 60 heures semaine. Donc, pour rappel, ça nous ramène effectivement 150 ans en arrière. De différer le versement de certaines rémunérations et de suspendre les élections des représentants du personnel. Il y a aussi la possibilité de s'exonérer de certaines obligations de suivi médical. Là, on est quand même devant un état d'urgence sanitaire qui n'est pas très représentatif du fait de favoriser la protection de la population ni venir en aide aux soignants. Au contraire, ce qu'on en dit, c'est qu'elle met en danger les plus exposés, qui sont aussi souvent les plus vulnérables, en rendant leurs tâches encore plus pénibles. Il y a eu là récemment, donc pour rappel, cet incident avec M. Anthony Smith, qui est secrétaire CGT, TFEP, et inspecteur du travail dans la Marne, qui a été suspendu après avoir respecté les droits du travail et demandé à une société d'aide à domicile seulement d'assurer les mesures de protection nécessaires à l'exercice de ses salariés, dont plusieurs étaient suspectés ou hospitalisés pour Covid. Donc ça nous montre quand même au niveau prioritaire qu'on n'est pas dans la protection des travailleurs, qu'on est plus dans la protection d'une économie. Cette économie-là, celle qui est défendue, c'est pas celle qui ruisselle sur tous ceux qui l'apportent.
Ouais, donc on entend bien que là, ce que vous dites, c'est que c'est l'économie qui est privilégiée plutôt que la santé des travailleurs. Donc en aucun cas, pour vous, ces mesures ne sont justifiées en fait par la crise sanitaire. On aurait pu faire autrement.
Oui.
Le dernier arrêté publié par la préfète de l'Ardèche concernant les week-ends du 1er mai et du 8 mai, interdisant aux gens confinés sous le même toit de se promener, de sortir à deux, participent de ce fait-là. Aucune raison sanitaire ne justifie un tel arrêté. À notre avis, un tel arrêté, d'abord, on le dénonce, et un tel arrêté ne sert qu'à pénaliser, qu'à punir inutilement, et ne rend pas responsables les citoyens de leur combat contre le virus. au contraire.
Le manque de pédagogie, d'éducation et d'explication et de transparence aussi, en fait, depuis le début de la crise, ça fait en sorte que la cohésion que pourraient apporter ces mesures et plus d'égalité et plus de justice dans les mesures qui seraient prises, on obtiendrait beaucoup plus d'adhésion et de compréhension et de confiance de la part de la population. Et je pense que
c'est contre-productif même presque.
Oui, là oui. Et c'est pareil pour tout ce qui a été mesure prise dans le travail, c'est-à-dire qu'on a cessé de montrer du doigt le fait qu'on nous demande et de rester très confinés, mais d'aller travailler, en plus ça n'était pas dans des secteurs qui sont considérés comme prioritaires. L'état d'urgence et les changements dans tout ce qui est droit du travail que ça implique, ça ne concerne pas spécialement un type d'entreprise qui pourrait fabriquer des masques, fabriquer du matériel de protection ou des besoins de première nécessité.
Ces mesures non seulement s'appliquent à tout type d'entreprise et pas forcément dans des secteurs qui luttent contre le Covid, mais que ça peut perdurer dans le temps.
Oui, on avait pu voir notamment lors du dernier état d'urgence, donc pour rappel c'était celui du risque terroriste, qu'il y a beaucoup de mesures qui avaient été prises normalement temporairement et qui ont fini par rentrer dans le droit commun. Donc c'est un petit peu notre crainte, c'est que tout ça soit après banalisé et accepté et que ça perdure dans le temps.
Au-delà du moment de l'état d'urgence sanitaire à proprement parler, qui est censé s'arrêter mi-juillet, si je ne m'abuse.
Ça justifie en rien l'armada sécuritaire qui a été passée en fait. Depuis le début, les travailleurs demandaient à faire valoir leurs droits de retrait dans énormément d'entreprises. Donc 40% des droits de retrait ont été retoqués. C'est pour ça qu'il y a eu par exemple des appels à la grève par la Fédération du commerce de la CGT, pour pouvoir permettre aux salariés où les conditions sanitaires n'étaient pas mises en place par les patrons de pouvoir se mettre en grève, vu que le droit de retrait était contesté.
Il ne faut pas qu'il y ait d'attente trop importante sans penser que ça ne va pas passer à un moment donné par la volonté et par une reprise du pouvoir pour faire changer tout ça. Donc c'est là où le syndicalisme, ou en tout cas tout ce qui fait corps entre les gens pour pouvoir se ressaisir du pouvoir décisionnaire, des usagers, des travailleurs, de manière à pouvoir rentrer à nouveau dans les décisions, ça, c'est plus qu'important, c'est nécessaire en fait. Ça ne pourra pas se faire sans cet élan-là.
Ça demande une responsabilité individuelle aussi de chacun, de s'impliquer, de penser collectif.
Je crois qu'aujourd'hui, les organisations syndicales sont à la croisée des chemins, elles doivent aussi penser et rapidement une autre organisation sociale. L'organisation sociale actuelle a failli, puisqu'on s'aperçoit que les entreprises ne peuvent plus payer les salaires et qu'aujourd'hui, alors que les entreprises et le MEDEF critiquaient l'État, l'intervention de l'État dans l'économie, on s'aperçoit que sans l'État, les salaires ne pourraient plus être payés. Donc nous, on pense qu'une autre organisation sociale non seulement est possible, mais elle est nécessaire. Pour les organisations syndicales, les travailleurs doivent gérer l'ensemble de l'économie et doivent redevenir décisionnaires sur tout ce qui touche alors, bien commun. Autrefois, par exemple, la sécurité sociale était gérée directement par les travailleurs. On ne demande pas au patron de gérer notre salaire direct. Pourquoi on demanderait au patron et à l'État de gérer notre salaire indirect? Ça paraît tout à fait logique, notre demande, et notre exigence plus que notre demande. On le voyait bien, jusqu'à la crise récente, c'était les administratifs qui avaient le pouvoir dans les hôpitaux. Il a suffi que le virus vienne bouleverser tout ça pour qu'à nouveau, ce soit les soignants qui soient les premiers responsables de l'hôpital et organisent l'hôpital selon leurs besoins pour vaincre et essayer de vaincre la maladie.
Oui, là, il y a eu une vraie gestion de terrain émanant vraiment, parce qu'il y a eu très peu de directives, donc il y a vraiment eu une gestion qui est remontée de la part de tous les agents de terrain, alors pas seulement dans le soin, mais on a pu le voir dans tout ce qui était approvisionnement, alimentation, enfin toutes les failles jusque-là et toutes les incapacités qui ont été relevées venaient de stations qui étaient très éloignées du terrain et qui n'ont pas rempli leur rôle parce qu'il y avait cette fracture-là. Ce qui a fonctionné, ça a été les prises de décision dans l'urgence de travailleurs directs, en fait. Et ça a fonctionné.
Qu'est-ce que vous demandez en ce 1er mai 2020 et qui pourrait ensuite faire l'objet de revendications sociales dans l'après-confinement?
Nous, ce qu'on revendique, en fait, là, pour ce 1er mai, et même plus loin, en fait, face à la faillite de l'État et au relancement de l'économie, avant de s'occuper de la santé, en fait, des travailleurs, c'est déjà le maintien de tous les salariés, l'interdiction des licenciements, le maintien des indemnités chômage, y compris pour les fins de droit, le gel des loyers, la fermeture de toutes les entreprises n'assurant pas la protection efficace des salariés et la fin de l'état d'urgence. Après, nous, ce qu'on pense aussi, c'est qu'il va y avoir une lutte concrète sur le droit du travail et la casse qui est en train d'être faite par le patronat avec l'aide du MEDEF et de plein de partis politiques qui appellent à l'Union nationale, qu'il va falloir aussi construire des contre-pouvoirs et massifier dans les organisations syndicales pour amener un autre projet de société, en fait. Aujourd'hui, on veut la gestion, comme le disait Daniel, de l'économie et avoir notre mot à dire sur la gestion des entreprises et du fonctionnement. On veut plus laisser ce pouvoir-là aux capitalistes et à l'État, en fait, au vu de ce qui s'est passé et de la mauvaise gestion qu'il y a eu, en fait. Pour revenir à la charte d'Amiens, en fait, c'est il y a améliorer nos conditions de travail, mais aussi on veut avoir une autre gestion de la société et avoir un autre modèle à proposer, plus solidaire, plus égalitaire, où on veut avoir notre mot à dire. On se construira par les luttes et on grandira par les luttes collectives, de toute façon.
L'intersyndicale CGT et CNT, représentée aujourd'hui dans les confinés chroniques par Léo, Élodie et Daniel, s'oppose également à la réouverture des écoles, tant pour le risque que cela fait courir au personnel qu'aux enfants. Ils dénoncent une mesure qui ne sert qu'à forcer le retour au travail en offrant un service de garderie. Sachez aussi qu'une pétition soutenue par près d'une trentaine d'organisations syndicales, associations, ONG et autres collectifs, parmi lesquels Attaque France, la CGT, la Confédération Paysanne, Greenpeace ou Oxfam, pour n'en citer que certains, une pétition donc est en ligne pour demander entre autres l'arrêt des activités non indispensables, la réquisition d'établissements pour produire du matériel médical, la suspension du versement des dividendes, des rachats d'actions et bonus au PDG, un plan de développement des services publics, une fiscalité plus redistributive et un plan de relocalisation solidaire de l'agriculture, de l'industrie et des services. Pétition titrée « Plus jamais ça », signons pour le jour d'après, c'est sur polycat.org. Et sur les ondes de fréquence 7, rendez-vous avec Laurent à 18h15 pour les dossiers de l'onde curieuse. On part cette fois à la rencontre des lieux de la diffusion culturelle et artistique en Sud-Ardèche. Comment ont réagi les salles et les associations? Comment vont-elles faire face à la crise sanitaire? 5 invités, Amaury Rullière pour la SMAC 07, Brieux Mével pour l'association Au-delà du temps et la saison culturelle Le Pied aux Planches, Hervé Carras, directeur du centre Le Bourneau, Sébastien Chevillaz, directeur de l'association L'Art d'Enfer et Éric Lemaire de l'association à Rebrousse-Poil et du café associatif Le Pas de Côté à Mercuey s'entretiennent avec Laurent. Les dossiers de l'onde curieuse, c'est donc aujourd'hui à 18h15, rediffusion samedi 14h15 et dimanche 10h15. Et puisqu'on est vendredi, c'est aussi le jour où le compte YouTube des Pink Floyd met en ligne une nouvelle archive, l'intégralité d'un concert live enregistré dans des lieux mythiques. Déjà en ligne, le concert au Earl's Court à Londres en 1994 pour entendre l'intégralité de Dark Side of the Moon avec la mise en scène qui va avec. Il ne reste plus que 2 vendredis. Aujourd'hui sera-t-il celui du live à Pompéi en 1972 à voir absolument, c'est stupéfiant et totalement planant. Faites la fête, chers confinés, profitez bien du week-end. À lundi. Ciao.